Bien. Je ne suis pas ici pour faire un discours, comme disait Gabriel García Márquez, dans l'un de ses discours. L'ouvrage, enfin, la phrase a été choisie, en espagnol aussi, je crois, non, pour ce recueil de discours qu'Annie Morvan a traduit vers le français. Il y a... j'aime bien ce livre. Enfin, ce livre, ce recueil de petits discours dont nous parlerons vraisemblablement dans les deux jours. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Gabriel García Márquez. Il y a quelques phrases qui me plaisent beaucoup. Dans ce livre, comme celle-ci, que le métier de romancier est un rare métier qui devient plus difficile à mesure qu'on le pratique. Et j'aime beaucoup aussi, c'est la 8e édition de ces rencontres de Fontevraud, ça fait 9 ans que nous venons ici. Et il y a une espèce, alors là, ça n'est pas Gabriel García Márquez, c'est plutôt Maurice Nadeau, une étrange confrérie entre tous ces écrivains. Ça, c'est une référence évidemment à Malcolm Lowry, dont nous avons fêté ici le centenaire de la naissance, il y a quelques années. Mais également, il y a voilà, des liens entre tous ces écrivains, et principalement quand García Márquez raconte que la première fois qu'il a lu Pedro Páramo, c'était un cadeau d'Álvaro Mutis qui lui a donné le livre en lui disant « Tiens, apprends !» et que la lecture de Juan Rulfo, écrivain auquel nous avons consacré des rencontres ici à Fontevraud il y a 4 ans, demain nous mettrons la librairie pour ceux qui n'ont pas vu ces livres, puisque le principe de ces rencontres, évidemment, c'est que tout ce qui se dit ici est capté, enregistré, sans faute, et ensuite saisi et imprimé et publié. Et donc, d'une part, il y a, voilà, il y a ça avec Álvaro Mutis, Juan Rulfo, il y a après quelque chose que j'aime beaucoup dans ces lignes comme ça. Bon, évidemment, il y a l'an passé, le colloque, puisque maintenant le colloque est tronçonné en 3. 2 jours à Marseille, 2 jours à Fontevraud, 2 jours à Paris. Donc, les rencontres de l'an passé, c'était la même chose autour de l'œuvre de Julio Cortázar. À Marseille avec Pascal Jourdana à la Marelle, puis ensuite à l'abbaye de Fontevraud, puis ensuite à Paris. Ce sera la même chose cette année. Il y a déjà eu les 2 jours à Marseille, il y a aujourd'hui, enfin, ces 2 jours à Fontevraud, et puis en novembre, il y aura également 2 journées à Paris. Et c'est aussi là une continuité, puisqu'il y a ces rapports et ces contacts amicaux entre Julio Cortázar et Gabriel García Márquez. Je ne sais pas s'il y a... Non, je crois que là, pour l'instant, dans ces 2 jours, il y a une politique, vraiment. Hein, mais enfin, peut-être on verra ça en novembre, puisqu'ils se sont rencontrés à Prague en 68, qui n'est pas une date au hasard, puis ensuite, beaucoup à La Havane, il y a l'affaire Padilla, peut-être on en parlera à Paris, je ne sais pas. Il y a eu une grande différence politique à un moment entre Julio Cortázar et Juan et Gabriel García Márquez, et puis ensuite, évidemment, ils se sont retrouvés à Managua après la victoire des Sandinistes. C'est donc Annie Morvan qui, cette année, est le directeur ou la directrice littéraire de toutes ces rencontres, qui a choisi les invités. Tout le monde est là, à part Hector Abad, pour des raisons familiales et personnelles. Et donc, nous allons commencer ce soir. Annie va nous présenter les 2 journées, regarder ce film, et comme je vous le disais et vous le rappelle, tout ce que nous disons ici est enregistré et sera publié, mais enfin, soumis à correction, n'ayez pas peur, on peut dire des âneries, éventuellement relire. Voilà. Pour terminer, j'aime beaucoup aussi cette anecdote que finalement, après avoir lu Pedro Páramo, et avoir, comme il le confie lui-même, puisqu'il avait pensé à 100 ans de solitude pendant 19 ans avant de se mettre à l'écrire, il a changé de manière d'écrire grâce à ce Pedro Páramo de Juan Rulfo que lui avait offert Álvaro Mutis. Et ensuite, quand enfin il l'a écrit, ce livre a été saisi, mis au propre par, comment s'appelle-t-elle, Perla, non, Esperanza, je ne sais plus comment, que tout le monde connaissait et qui avait elle-même saisi, mis en page Pedro Páramo et les scénarios de Luis Buñuel. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette idée d'étrange confrérie à laquelle nous continuons de travailler avec ce colloque Gabriel García Márquez.
Alors, comme moi je ne sais pas très bien improviser, je je ne fais pas ça avec autant de, d'aisance et de brio que Patrick. Donc j'avais préparé un petit texte qui n'est pas tellement pour présenter ces deux journées, parce que je crois que vous avez tous le programme, donc vous savez un peu de quoi il retourne. Mais simplement pour dire ceci. Je voudrais tout d'abord remercier Meeting, donc la maison des écrivains et des traducteurs étrangers, d'avoir organisé et d'avoir consacré les rencontres de Fontevraud cette année à Gabriel Garcia Marquez. Remercier Patrick Bonnet, remercier toute l'équipe de Meeting, en particulier Elisabeth Biscay, et remercier surtout Patrick Deville qui m'a fait quand même un magnifique cadeau en me proposant la direction littéraire de cette manifestation. Alors évidemment, quand on a fréquenté pendant des années, une œuvre aussi importante, et quand on a eu la chance de plonger dans l'écriture de, et l'univers littéraire d'un prix Nobel de littérature, et quand on a eu en plus de ça le privilège de travailler étroitement avec lui, mais on ne peut que être réjoui et essayer de partager sa passion pour une telle œuvre avec d'autres, avec vous qui êtes ici ce soir. Alors j'ai une passion pour une œuvre littéraire fascinante, nourrie par la langue de toute la littérature espagnole, comme en témoigne le petit croquis, là, la carte que vient de nous montrer Cléty, qui est une carte de Macondo, où bordant le village de Macondo, il y a la Mancha, donc le pays de Cervantes et de Don Quichotte. D'une littérature nourrie par les plus grandes œuvres des écrivains du XXe siècle, et on les retrouve aussi sur la carte de Macondo, et par l'exubérance, toute l'exubérance de la culture populaire caribéenne. Mais c'est une œuvre qui est aussi nourrie par la passion pour Garcia Marquez, pour un aspect de son œuvre que l'on connaît moins, le journalisme. Il y a quand même 3500 pages d'écrits journalistiques, de reportages, de critiques littéraires, cinématographiques, artistiques, de voyages, etc. Et donc une œuvre journalistique qui n'est pas parue en France, mais qui indique aussi la place qu'avait la conscience qu'avait Garcia Marquez de la place de l'écrivain dans l'histoire. Donc, c'est un Garcia Marquez vivant que nous célébrons ici, aujourd'hui. Vivant à Fontevraud, dans toutes les langues du monde, et là aussi, je voudrais remercier Dagmar Pleutz, Cléty Sotiriadou, Marie-Hélène Sabartem et Lydé Carmignani d'être venus jusqu'ici pour nous expliquer avec quels vices et quels clous elles ont reconstruit la menuiserie de Garcia Marquez. Et je pense que cette petite allusion, vous allez la comprendre tout à l'heure dans le film qui va être projeté. La carpinteria de Gabo, comme il l'appelait. Et puis, de nous faire entendre chanter la langue de Garcia Marquez en hollandais, en néerlandais, en grec, en allemand et en français. Gabo est vivant aussi dans les multiples découvertes que Caroline Lepage et Cécile Brochard ont faites en naviguant dans les eaux profondes de son imagination, comme Antonio Pigafetta dans les mers méridionales que Gabo célébrait dans son discours du prix Nobel. Il est vivant dans les traces qu'il a laissées aux quatre coins du monde dans l'imaginaire de nombreux écrivains, celui de Moyane en particulier, qui a toujours dit que sans Garcia Marquez, il n'aurait pas fait l'œuvre qu'il a faite sur son recoin de Chine, sur le Yunnan, et puis aussi dans l'imaginaire de Vincent Message, d'Antoine Volodine et de Juan Carlos Mondragón, qui n'ont pas hésité à venir parler ici ce soir de leur lecture de Garcia Marquez. Et puis, Gabo sera vivant aussi au mois de novembre à Paris, lorsque Jaime Abello, Bruno Patino, Gérald Martin et Constantin Costa-Gavras viendront témoigner de sa passion pour le journalisme et le cinéma et de son engagement sans faille pour le monde meilleur. Il y a 50 ans, le colonel Aureliano Buendía se rappelait ce lointain après-midi au cours duquel son père l'avait emmené faire connaissance avec la glace. Dans 100 ans, nous ne serons plus là pour savoir si la lignée des Buendía a eu enfin et pour toujours une seconde chance sur Terre. Mais j'espère qu'entre-temps, ce colloque aura semé quelques petits poissons d'or sur le chemin de Macondo et que d'autres, après nous, viendront rendre visite à la famille Buendía. J'espère que Fermina Lassa et Florentino Arisa poursuivront leur voyage sur le Magdalena et que l'on verra les cheveux de Sierva Maria grimper le long des murs du couvent de Santa Clara à Cartagena des Indes.